5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ouais.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisins.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À l'heure d'été, tous les jours cette semaine, des journalistes de RFI et d'autres invités vont nous raconter la vie quotidienne dans une ville du monde. Se loger, se déplacer, se rencontrer, aimer, travailler. On va partager comme ça une partie des préoccupations des habitants. Et aujourd'hui, vivre dans une ville encerclée, Kaboul, en Afghanistan, raconté par Sonia Ghezali. Bonjour Sonia.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage en France et vous êtes journaliste, correspondante pour RFI. Vous êtes installée à Kaboul depuis...
Depuis presque 2 ans maintenant. Dans un mois, ça fera 2 ans.
Dans l'une des villes les plus dangereuses de la planète, Kaboul, plus de 4 millions d'habitants. Ville encerclée, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission.
Oui, ville encerclée parce que déjà géographiquement, Kaboul est entourée en fait d'une chaîne de montagnes, de collines. Et ville encerclée aussi parce que Kaboul est devenue la ville la plus dangereuse d'Afghanistan. Elle fait face aux nombreuses attaques d'insurgés différents puisqu'il y a les talibans, il y a l'organisation État islamique, il y a aussi différents groupes criminels. Et je pensais aussi à ville encerclée parce que Kaboul est comme une bulle en Afghanistan. C'est une ville qui est très très particulière et qui est unique en fait dans le pays.
Est-ce que c'est la ville où la situation sécuritaire est la plus problématique ou pas par rapport au reste du pays ?
Oui, parce que dans Kaboul se trouvent les forces étrangères. Il y a des forces étrangères aussi dans le reste du pays. Mais il y a le QG de l'OTAN. S'y trouvent aussi toutes les ambassades étrangères, les forces de sécurité, les ministères. Et donc, ce sont les premières cibles en fait des talibans.
Alors, évidemment, vous allez nous raconter à quoi ressemble la vie quotidienne dans cet espace sécurisé, ultra sécurisé, et aussi quelle influence sur l'organisation spatiale de la ville de Kaboul. Vous signez aussi, Sonia Ghezali, le programme musical qui raconte à la fois les désespoirs et les rêves d'une génération. Au programme, hip-hop afghan, angoisse sécuritaire, rêve de départ vers un ailleurs. Mais tout de suite, on démarre cette tranche de vie à Kaboul avec une légende musicale locale. Ahmad Zahir, surnommé aussi le Elvis Presley afghan.
از نرگس چشم می تو بیمارم دیگر تو مده جوه بسیار.
Sonia Ghezali, que on soit riche ou pauvre à Kaboul, la préoccupation la mieux partagée par tous les habitants de la ville, c'est de rester en vie. Et vous avez extrait pour nous des extraits d'archives de vos reportages qu'on écoute tout de suite. La vie à Kaboul malgré les attentats.
Quand j'évalue la situation ici, personne n'est en sécurité. Quand je pars de chez moi le matin, je dis adieu à ma famille parce que je ne les reverrai peut-être jamais. Il n'y a aucune garantie de rentrer vivant chez soi. Vous savez bien, chaque jour, c'est de pire en pire en Afghanistan et particulièrement à Kaboul.
Rester vivant à Kaboul est un pur hasard, c'est ce que vous rapportez de vos lectures sur les réseaux sociaux.
Oui, et là on entendait Hassan en fait, qui est un commerçant dans Chicken Street, qui vend des meubles magnifiques de style Nouristani, qui a un bois travaillé comme de la dentelle. Et ce jour-là en plus, quand j'ai été voir Hassan, c'était au lendemain d'une semaine en fait qui avait été très très difficile, puisqu'il y avait eu beaucoup d'attentats, attaques contre l'Intercontinental, qui est un grand hôtel fréquenté notamment par l'élite, par des étrangers aussi. Il y avait eu l'attaque tout près, au bout de cette rue, Chicken Street. Et donc,
Hassan était... C'était en janvier dernier.
C'était en janvier dernier.
Près de 100 morts. Hein.
Exactement, plus de 150 morts d'ailleurs. Et Hassan était très choqué, il n'a pas arrêté de pleurer pendant plusieurs jours. Et cette rue très animée, qui est la plus touristique de Kaboul,
c'est l'ancienne rue des antiquaires.
Exactement.
Il en reste quelques-uns.
Il en reste beaucoup, même si de nombreuses boutiques ont fermé. Mais Hassan était vraiment très choqué, comme tous les commerçants de cette rue. Et ce jour-là, en plus, il y avait eu un séisme, puisque Kaboul, comme le reste de l'Afghanistan, est souvent secoué. Donc ça faisait beaucoup de choses difficiles à vivre. Et c'est vrai que cette question sécuritaire, elle est omniprésente. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées en Afghanistan m'ont dit, à un moment donné, quand je sors de chez moi, je ne sais pas si je vais rentrer vivant.
Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Comment ça conditionne l'organisation de la ville aussi?
Ce que ça, alors déjà visuellement, Kaboul, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a des T-walls, ces hauts murs de béton armé qui en fait entourent les principaux ministères, l'ambassade des États-Unis, et donc. Par exemple, on parle de cette green zone, cette zone verte où se trouvent beaucoup d'ambassades étrangères, où se trouve le QG de l'OTAN, où se trouve l'ambassade des États-Unis. C'est une zone qui est extrêmement sécurisée. Pour y accéder, il y a certains points d'entrée qui sont gardés par des checkpoints, des barrages de police extrêmement bien gardés. Donc les voitures sont fouillées, les voitures sont vraiment scrutées. Donc visuellement, cette ville, Kaboul, a beaucoup, beaucoup changé. Moi, j'ai un ami, Lorenzo, qui y va depuis une dizaine d'années. Il y a 2 ans, on s'est vu à mon arrivée là-bas. Il me disait que lui-même était extrêmement choqué de voir, en fait, en quelques mois, il y a des T-walls qui poussent partout.
Donc ces fameux murs de sécurité. Donc la green zone, la zone verte où il y a donc les plus grosses cibles pour des attaques terroristes, cette zone est régulièrement la cible d'attentats aux portes de cette zone, parce qu'évidemment, c'est impossible d'y faire un attentat à l'intérieur même, ce serait très compliqué.
Ce serait très très compliqué parce qu'il faut déjà arriver à y entrer. Il y a eu un événement très très marquant, c'est le 31 mai de l'année dernière, 2017, un camion piégé, un camion citerne avait explosé, avait fait plus de 150 morts. Donc c'était à l'entrée en fait de la zone verte, ça avait été extrêmement traumatisant. Et à la suite de cet attentat, l'ambassade de France, qui avait été aussi particulièrement touchée, puisqu'elle se trouve vraiment assez près de l'entrée de la zone verte, a dû entamer une série de travaux et n'est toujours pas remise d'ailleurs.
Ça veut dire qu'au quotidien, on se cloître quand on le peut dans des quartiers résidentiels le plus à l'écart possible de la menace?
Oui, alors vraiment, enfin, la règle de sécurité numéro 1, c'est d'essayer d'être le plus loin possible de cette zone verte. Et en même temps, quand on est journaliste ou quand on travaille pour des ministères, c'est compliqué parce que tout ce qui nous intéresse, le centre de conférence de presse, les ministères, le QG de l'OTAN, se trouve dans cette zone. Et pour y accéder, c'est bien de ne pas être trop loin non plus, parce que un autre aspect de Kaboul, ce sont les traffic jams, pardon, les embouteillages qui sont très très importants. C'est une ville embouteillage permanent, et quand on est dans un embouteillage, on a aussi peur parce que on n'a pas envie d'être pris dans un attentat, dans un embouteillage, surtout que il y a toujours des voitures de police et ce sont des cibles d'attaque.
Ça donne une ambiance particulière dans les relations entre les habitants?
Ça donne, oui, il y a ce qu'on dit souvent quand on quitte quelqu'un, c'est « prends soin de toi, fais attention à toi, Dieu te garde ». C'est omniprésent, cette préoccupation sécuritaire, elle est vraiment omniprésente. Ce qui donne aussi un lien très fort entre les gens, un attachement aussi très très particulier, oui. Et en même temps, une relation à la mort qui est assez déroutante, parce que les gens partent facilement, et les gens sont habitués à avoir des deuils, des décès autour d'eux. C'est comme une menace, enfin c'est une menace qui est permanente et qui est tout autour. Quand on sort de chez soi, on peut être pris dans un attentat, on peut passer à côté d'une bombe magnétique qui explose, c'est omniprésent.
Il existe encore une partie des forces de l'OTAN, beaucoup moins importante qu'autrefois, 16 000 soldats de l'OTAN. Est-ce que, dans tout le pays, est-ce qu'à Kaboul, on les voit, ces soldats de l'OTAN, d'ailleurs, beaucoup d'Américains ?
On les voit très très peu, ils sont cantonnés dans leur QG, dans la zone verte. De temps en temps, ils font des sorties où ils patrouillent, donc ce sont des convois de gros tanks ou de Humvee qui sont ces voitures de transport militaire. Mais on les voit très très rarement et quand ils sortent, ça mobilise justement quatre gros véhicules. Ça signifie que ça arrête la circulation, les voitures s'écartent. Et quand on se trouve derrière un convoi, on a toujours très peur parce que ce sont des cibles et on n'a pas envie d'être derrière eux.
Quelle est la place des réseaux sociaux pour s'informer des menaces terroristes ? Est-ce qu'ils sont anxiogènes ? Est-ce qu'ils ont une réelle utilité dans la circulation des rumeurs, de l'information ?
Ils ont une utilité. Alors, il y a une page Facebook qui est Kaboul Security Now, que tous les Kaboulis, en fait, consultent, Kaboulis afghans ou étrangers. Dès qu'il y a une attaque, une explosion, on a tout de suite un message sur cette page Facebook. Et les gens s'interrogent et se renseignent mutuellement. Faut faire attention parce que souvent, c'est anxiogène parce que dès qu'on entend une explosion, on a tout de suite plein de messages sur cette page Facebook disant explosion dans tel arrondissement de Kaboul, de quoi il s'agit, est-ce que vous avez plus d'informations ? Le réseau social qui donne le plus d'informations sur, vérifier, c'est Twitter, parce que là, ce sont des journalistes qui tweetent et qui donnent les informations. Il faut toujours quand même se méfier. Mais oui, c'est anxiogène parce que parfois, c'est juste un pneu qui éclate. Mais voilà. J'ai une amie qui dit que dès qu'elle entend une porte claquer, elle sursaute. Et moi aussi, ça m'arrive parce que on n'arrive plus trop à distinguer, en fait. Parfois, c'est la confusion et on peut entendre une explosion là où il n'y a qu'une porte qui claque.
Alors, outre la peur des attentats, la peur réelle, puisque les attentats s'égrènent malheureusement très régulièrement, voitures piégées, attentats kamikazes, il y a aussi la menace réelle des enlèvements à Kaboul.
My son told me father. Please give the money to them. My life
on entend mon fils me dire, papa, s'il te plaît, donne-leur l'argent, nos vies sont en danger.
Please rescue me.
Il pleure, il me dit, papa, s'il te plaît, sauve-moi, fais-moi libérer. Il le torturerait avec un cutter pour que je l'entende crier et pleurer.
Hands of my son and he should cry. On the time I was the head of a local district.
À cette époque, j'étais chef d'un district. Je cherchais à vendre une parcelle de terre que j'avais pour monter un commerce. Un jour, je suis allé comme chaque matin à 7 heures à mon bureau. Mes enfants, eux, partaient à l'école. L'un de mes fils venait de sortir de la maison avec sa petite sœur quand des hommes se sont approchés de lui. Ils lui ont demandé s'il était bien mon fils. Lui a donc pensé que ces hommes étaient mes amis. Il leur a donc répondu que oui, et c'est là qu'ils ont sorti leurs armes. Ils l'ont frappé avec leurs pistolets. Ils l'ont forcé à monter dans une voiture.
Ça date de quand, ce business du kidnapping auquel vous avez consacré un reportage ? J'ai un extrait qu'on vient d'entendre de vos archives, Sonia Ghezali. On est bien à Kaboul, vivre au quotidien dans cette terreur sécuritaire.
Oui, ça date d'il y a très très longtemps, puisque je me suis intéressée, moi, à ce sujet quand je suis arrivée, parce que j'avais rencontré Choukroula, qui est un commerçant dans Chicken Street, dont le frère, qui a l'oreille coupée et qui est vendeur avec lui, a été enlevé. C'est Choukroula qui m'en a parlé assez rapidement. Et je me suis intéressée à ce sujet, mais j'ai vu qu'il y avait, des reportages qui avaient été faits en 2005, 2007. Je pense que c'est un business qui existe dans beaucoup de pays pauvres. Mais ce qui m'a... on parle souvent des kidnappings, des enlèvements d'étrangers. Mais les Afghans sont les premiers en fait à en souffrir de façon massive.
Les Afghans qui ont de l'argent et à qui on pourrait réclamer une rançon, bien sûr.
Effectivement, Wazir qu'on a entendu, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, dont le fils a été enlevé. Wazir, il avait quelques responsabilités. C'était un chef local qui avait des terres. qui n'est pas riche hein, du tout. Effectivement, on a enlevé son enfant parce qu'il allait vendre, un terrain qui lui appartenait. Et en fait, c'est un de ses neveux qui traînait avec des délinquants, qu'il a dénoncé, enfin, qui a parlé de lui et dont le fils a été enlevé. Il a envoyé ensuite, une fois que son fils a été libéré, il l'a envoyé en Inde. Et il y a quelques mois, il m'a contacté pour me dire que son fils rentrait d'Inde et qu'il était désespéré parce que l'un des kidnappeurs avait été libéré de prison et qu'il savait pas quoi faire. Mais oui,
C'est-à-dire qu'on n'est pas en sécurité même dans sa communauté même,
non,
finalement.
Non.
C'est ce que vous semblez dire. Il y a donc à Kaboul même un business de la sécurité aujourd'hui qui s'est développé. Vous parliez de ces fameux murs qui se sont érigés partout, ces murs de béton qui peuvent se monter en une nuit ou pas loin, hein, dans les zones les plus ciblées par les attentats. Est-ce que dans la vie quotidienne, on est sollicité par ce business de la sécurité, des moyens les plus dérisoires aux moyens les plus lourds?
On est en permanence sollicité, il n'y a pas de publicité. En revanche, quand on est étranger, on est censé habiter dans des maisons qui bénéficient d'une certaine sécurité. Ça passe par des gardes armés. Donc ça, c'est le premier
c'est
business.
C'est le cas chez vous?
Non, c'est pas le cas
là
chez
vous
moi.
Habitez, non.
Non, c'est pas le cas chez moi parce que je vis dans une rue qui bénéficie de plusieurs postes de sécurité, donc gardés par des policiers, parce que je suis dans une zone justement près de la zone verte où il y a des ministères, etc. Donc déjà l'espace est sécurisé. C'est une exception, c'est vrai, mais la plupart des maisons ont des gardes armés, la plupart des maisons aussi de ce qu'on appelle des safe rooms, une pièce avec une porte blindée qui permet justement de se retrancher en cas d'attaque. Il y a aussi ce qu'on voit de façon assez notoire, ce sont ces grands véhicules, ces véhicules armés. La plupart des étrangers, des ONG circulent en voiture blindée.
Et puis, il y a aussi des films anti-déflagration pour les vitrines des magasins. Et est-ce que ça a une utilité, d'ailleurs?
Oui, c'est une utilité. C'est vraiment important. Donc, chez moi, toutes les vitres ont ces films anti-blast, anti-explosion. Parce que dès qu'il y a une explosion, même si elle se trouve assez loin, il y a ce souffle qui peut parvenir. Et ça permet, en fait, à la vitre de ne pas exploser. Et on peut être blessé. Souvent, on est blessé par ces éclats de verre. Et donc là, la vitre se fissure, mais n'explose pas. Et c'est indispensable.
Travailler dans la sécurité, c'est le meilleur job qu'on puisse avoir pour lutter contre le chômage si on n'a pas un poste de fonctionnaire international.
Oui, mais il y a moins d'étrangers. En Afghanistan, il y a beaucoup moins d'étrangers à Kaboul. Et donc ce business, il s'adresse quand même à une population privilégiée. Et par rapport avant 2014, avant le retrait total des troupes des étrangères, il y a moins quand même de clientèle.
On est avec vous, Sonia Ghezali, en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI, dans Kaboul, la ville que vous qualifiez à juste titre d'encerclée. Et dans cette folle incertitude de la vie, de la survie, il faut quand même penser à l'avenir, surtout quand on est une fille. Et ça passe forcément par l'école qui, en Afghanistan, est un long combat.
Thank you.
vivre dans une ville encerclée, Kaboul, en Afghanistan, avec vous Sonia Ghezali. Vous signez le programme musical de l'émission en direct sur RFI. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, Dorta Rastom, c'est le titre qui veut dire « Je suis une fille » en Dari. C'est le titre de l'orchestre Zora, qui est un orchestre qui a été créé par le docteur Sarmaz, qui dirige la seule école de musique d'Afghanistan qui se trouve à Kaboul, qui s'appelle ANIM, A-N-I-M. Et donc cet orchestre est inédit, c'est vraiment une perle dans ce pays parce qu'il n'y a pas d'apprentissage de la musique. Le docteur Sarmaz, qui vit à cheval sur l'Australie et l'Afghanistan, a vraiment dédié toute sa vie à cet apprentissage de la musique à destination des filles et des garçons.
Oui, c'est un orchestre mixte. Hein. Il faut voir d'ailleurs la vidéo qui est très très belle, de voir tous ces jeunes jouer d'instruments difficiles, tous ensemble, filles et garçons.
Oui, et c'est un défi pour lui. Il a dû s'entretenir avec les familles, souvent pour les convaincre de laisser leurs filles venir à l'école et apprendre la musique, parce qu'il y a encore en Afghanistan des mollahs, des chefs religieux qui à la télévision disent que la musique est haram, ça veut dire n'est pas conforme à l'islam. Et donc il y a beaucoup de familles qui considèrent que c'est mal de jouer d'un instrument de musique, que c'est mal de chanter et que c'est mal pour une fille surtout d'être avec des garçons, de passer à la télévision. Donc
ils ont été invités d'ailleurs à sortir du pays, à se produire à l'extérieur.
Ils se produisent à l'extérieur, ils ont fait l'ouverture la fermeture du forum de Davos l'année dernière. Ils ont fait des tournées à travers le monde, en Europe notamment. Et c'est une très très belle histoire, une très belle success story, comme on dit.
Où en est l'accès à l'école pour les filles ? À l'échelle du pays, le dernier rapport de l'UNICEF est alarmant parce que près de la moitié des enfants afghans sont privés d'école. Pour les filles, c'est 85% privés d'école. L'accès à l'école a reculé pour la première fois depuis 2002. Est-ce que Kaboul est épargné par cette régression ?
Non, Kaboul n'est pas épargné par cette régression parce que l'école, oui, reste un énorme défi. L'école est gratuite, mais la pauvreté fait que les familles envoient souvent leurs enfants travailler. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui travaillent. Et donc les enfants souvent vont le matin à l'école, l'après-midi travaillent. Donc ce sont souvent des vendeurs de différents objets, de chewing-gum, de stylos sur les routes, des cireurs de chaussures aussi. Ils vendent aussi des légumes derrière des charrettes à légumes ou à fruits.
Et donc ils louent des balances pour se peser aussi, il me semble.
Oui.
Ça c'est quand même, j'avais jamais vu ça nulle part.
Oui, alors c'est assez particulier, mais on en voit sur les trottoirs à Kaboul, on en voit dans les parcs.
Donc on donne une pièce pour se peser.
Exactement.
Et ça fait du travail pour un enfant.
Exactement, ouais. Enfin, j'en ris, mais en fait c'est triste. Moi, c'est la chose qui m'énerve le plus, en fait, en Afghanistan, c'est de voir tout cet investissement, tout cet argent, en fait, de la communauté internationale, et de voir autant d'enfants qui travaillent. Et ça fait énormément de peine parce que l'avenir du pays passe aussi par, il passe surtout par cette jeunesse qui subit la guerre, qui subit plus de 40 ans de guerre.
D'autant plus que les lieux d'éducation sont souvent ciblés par les attentats.
Oui.
À Kaboul comme ailleurs.
Comme ailleurs, mais on l'a vu récemment, il y a quelques jours, avec cet attentat dans l'est de l'Afghanistan, à Jalalabad, contre une faculté qui formait des sages-femmes. Et on a vu aussi beaucoup, ces dernières semaines, de façon récurrente, des attaques contre les écoles dans des zones contrôlées, disputées par les talibans notamment.
Université aussi.
L'université américaine qui a subi un attentat meurtrier et dramatique, donc l'université américaine à Kaboul, il y a trois ans maintenant, et qui a justement érigé encore plus de murs de béton armé. C'est une véritable forteresse aujourd'hui, l'université américaine.
Mais alors est-ce que, Sonia Ghezali, on peut être un enfant malgré tout à Kaboul ?
On peut être un enfant malgré tout, parce que j'ai une amie qui réalise un documentaire sur une école de cirque en ce moment à Kaboul. Et c'est intéressant puisqu'elle essaie justement, elle, de voir comment on est enfant à Kaboul. Et oui, les enfants continuent de jouer. Les enfants, leur rêve, c'est d'aller à l'école quand ils ne le peuvent pas. Et moi, j'ai rencontré un petit garçon dans un parc à Kaboul qui, justement, est cireur de chaussures l'après-midi, il va à l'école le matin et qui a une maturité assez déconcertante. Et ce petit garçon, il joue quand il peut, à côté de son travail, mais il considère que c'est normal de travailler à 7 ans.
C'est ça. 7 ans, être un adulte à mi-temps et un enfant le reste du temps. Grandir banalement avec sa famille, oublier le quotidien, ça peut être tout simplement d'aller dans un parc arboré avec ses parents.
Salam alaikum, asma Ferozas.
Je m'appelle Feroz.
Shai Salam Mardorom. Il y a 5
ans que je suis marié, j'ai 2 enfants, Subhan et Osman.
En fait,
j'ai fini l'école et moi je travaille au lieu de 12 heures, je travaille plus de 7 heures jusqu'à 10 heures du soir et on n'a qu'un seul jour dans la semaine, vendredi. Et on préfère venir ici. Ici, il y a l'air d'eau frais. Et on voit des plants, des herbes ici. En tout cas, je suis content de venir ici.
Et quand même,
on subit et on vient ici pour au moins effacer ce qui se passe à l'extérieur. Le chômage, les choses qui subit. Et on oublie. Je viens dans l'appart pour changer un peu l'esprit.
Oublier, tout simplement, en venant dans ce parc à Kaboul, Sonia Ghezali.
Oui, oublier, essayer d'oublier, parce que ce qu'il explique aussi, c'est que pour venir, pour aller jusqu'au parc, il prend le risque, justement, de venir en famille. Mais dans ce parc Barbabour, c'est un grand parc magnifique qui se trouve au sud-est de Kaboul. Et le vendredi, qui est le jour de repos, justement en Afghanistan, il y a énormément de familles qui vont se promener et essayer d'oublier ce quotidien stressant.
Comment peut-on se rencontrer à Kaboul ? Je parle aussi bien de l'amitié que de l'amour, bien sûr.
Alors, à l'école, c'est compliqué parce que jusqu'à l'université, filles et garçons sont séparés. Mais dans les parcs sont des lieux de rencontre et les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux sur Facebook, on se rencontre. J'ai un ami qui m'expliquait qu'il, lorsqu'il était jeune, avec son copain, il suivait les filles dans la rue. En faisant des psst comme ça pour essayer d'attirer leur attention et de choper un numéro de téléphone
furtivement glissé sur un petit morceau de papier.
Ça fonctionne pas très très bien. Mais Facebook, en fait, c'est vraiment le lieu de rencontre numéro un.
Quelle est aujourd'hui la situation des femmes à Kaboul ? Vous parliez de cette ville encerclée et de cette ville en dehors de l'aspect géographique, les montagnes, l'aspect sécuritaire, géopolitique. Vous disiez c'est un îlot, c'est pas une ville comme le reste du pays, y compris pour les femmes.
Oui, y compris pour les femmes, parce que les femmes kaboulies ont la réputation justement d'être très modernes, très ouvertes. Parce qu'elles portent leur voile de façon plus détendue, elles ont le voile un petit peu à l'iranienne, comme à l'iranienne, oui, donc légèrement en arrière sur la tête, donc ils laissent découvrir quand même leurs cheveux. Elles sont très très très, comment dire, modernes. Elles portent pour beaucoup, moi ça m'étonne toujours, mais des chaussures compensées, des talons aiguilles, alors que les trottoirs sont quand même défoncés à Kaboul. C'est pas du tout pratique d'être en talons dans la rue, avec des jeans moulants, des tuniques qui couvrent là juste les fesses, et elles sont très très féminines. Alors quand on va à l'université de Kaboul, c'est encore autre chose, parce qu'elles sont vraiment féminines. Et donc oui, c'est un îlot, Kaboul, parce que les femmes travaillent, elles prennent les transports, on les voit dans la rue, donc on voit des burkas, c'est longues. ces longues capes bleues qu'on voit dans beaucoup de films. Et donc on a cette image de la femme afghane avec cette burqa. Et c'est pas le cas vraiment. Enfin, à Kaboul, il y en a, mais on voit beaucoup de femmes
à visage découvert.
Exactement.
Dans une ville encerclée, nous sommes à Kaboul, en Afghanistan, grâce à Sonia Ghezali, correspondante de RFI depuis près de 2 ans maintenant, dans l'une des villes les plus dangereuses du monde. Sonia Ghezali, vous signez le programme musical. On vient d'entendre Ariana Saïd, qui est une chanteuse très, très populaire en Afghanistan.
Très, très populaire. Alors, dans les voitures, dans les fêtes, c'est Ariana Saïd qui passe. Ariana Saïd, c'est vraiment une icône parce que c'est une femme afghane qui est célibataire, je crois, oui. Qui est très très féminine, donc très maquillée, qui porte des vêtements souvent traditionnels, mais voilà, très cintrée, etc. Et elle fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu récemment un scandale lié à Ariana Saïd. Elle a donné un concert à Paris. Elle avait une robe couleur chair à paillettes, donc très près du corps. Et ça a suscité de vives critiques en Afghanistan par les plus traditionnalistes, parce qu'ils estimaient qu'elle était quasiment nue, qu'elle était comme nue en fait sur scène. Et elle a répondu en fait à ses critiques en brûlant en fait sa robe, en filmant cette scène où elle brûle dans un jardin sa robe pour répondre à ses critiques. Et c'est une femme qui est assez incroyable parce que elle est connue internationalement et puis sur le plan international. Et elle encourage les filles justement à aller à l'école. Elle parle de tout ça. C'est un appel à la modernité, à l'ouverture sur le monde.
Alors elle est membre du jury dans le concours télévisé qui est l'équivalent de la Nouvelle Star en Afghanistan, parce qu'il y a bien l'équivalent de la Nouvelle Star en Afghanistan, en dépit de la guerre, des menaces d'attentats, de kidnapping. Est-ce qu'il y a d'autres frondeuses un peu comme elle, qui ne sont pas forcément d'ailleurs positionnées sur la scène politique, mais qui, par leurs gestes de vie quotidienne, prennent des risques?
Il y en a dans le commun des mortels en Afghanistan. Moi, je pense à Zarifa, qui est une jeune fille incroyable, qui fait partie justement de l'ANIM, cette école de musique dont on a parlé. Et Zarifa, elle connaît tous les discours de Michelle Obama par cœur. Elle est passionnée de politique, enfin internationale. Elle a de grands rêves en fait. Et Zarifa ne porte pas le voile. envers et contre tous, puisque ses amis le lui reprochent. Ses amis lui reprochent de jouer de la musique, lui reprochent de ne pas porter le voile, et elle tient bon. Elle tient bon malgré aussi les critiques de sa famille. Elle a résisté à des mariages forcés.
C'est elle qui fait du vélo aussi.
Et c'est elle qui fait du vélo, oui, entre autres. Elle m'a emmenée faire du vélo dans les quartiers ouest de Kaboul, qui sont les quartiers où se trouve la population, la communauté Hazara, cette minorité chiite en Afghanistan, qui est réputée...
Plus progressiste.
En même temps, Zarifa, elle est Hazara, mais elle a dû quand même se battre pour ne pas être mariée de force.
Vous portez le voile à Kaboul, Sonia Ghezali, vous, en tant que journaliste correspondante?
Oui, alors on est obligé de porter le voile, même si ce n'est pas une obligation
légale.
Je porte le voile parce que, surtout quand on est étrangère, il faut absolument se fondre dans la masse, parce qu'on est des cibles potentielles, des cibles surtout de kidnapping. Et je porte le voile façon hijab, c'est-à-dire que je cache bien tous mes cheveux, puisque j'ai les cheveux frisés. Puisque je suis d'origine algérienne, donc voilà, j'ai les cheveux bien frisés, il n'y en a pas en Afghanistan, donc il faut vraiment que je cache ça, puisque c'est ce qui me trahit en fait.
C'est ça, donc vous portez un voile plus strict que beaucoup de femmes à Kaboul qui, elles, portent le tchadri, qui est très lâche, on voit les mèches de cheveux un peu comme à l'iranienne finalement.
Exactement.
Vous, c'est finalement, c'est le hijab.
C'est ça, oui.
Par la force des choses. Les femmes vont au salon de beauté, paraît-il, à Kaboul, m'avez-vous dit?
Oui, il y a beaucoup de salons de beauté qui sont fréquentés par les femmes. Alors c'est surtout quand il y a des mariages, parce que ça a un certain coût. Et donc les femmes vont se faire maquiller et coiffer dans ces salons de beauté. Alors nous, européennes, françaises, ça nous choquerait un petit peu, parce que elles ressortent très 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 maquillées. On qualifierait ça ici de peau de peinture, vraiment, parce que c'est un fond de teint très très clair, donc très blanc, avec des yeux très charbonneux, la bouche voilà, très très rouge.
Théâtral.
Ouais, très théâtral.
Est-ce que la vie est chère à Kaboul, Sonia Ghezali? Le prix des logements, de la nourriture?
Kaboul est très très cher. Alors, moi, en tant qu'étrangère, hein, je vis dans des conditions très particulières. Je paye, par exemple, ma chambre $400 dans une maison. $400, c'est vraiment pas cher comparé à ce que payent d'autres. Moi, je pense que j'ai le loyer le plus bas des étrangers qui vivent dans des maisons, parce que généralement, c'est $700-800 une chambre dans une maison. Et ce tarif se justifie par les gardes armées, souvent il y a du personnel de maison entre guillemets
qui fait la cuisine.
Voilà, la cuisine qui fait les courses. C'est aussi pour des raisons de sécurité, c'est bien d'avoir aussi des personnes du pays qui sont là en permanence, parce qu'elles donnent aussi un petit peu des informations sur le climat dans la ville quand on sort pas forcément. Les étrangers ne marchent pas dans Kaboul, ils se déplacent toujours en taxi ou en voiture, en taxi sécurisé et en voiture blindée. C'est une vie très très particulière, on est toujours un peu dans une bulle en fait.
Et la nourriture par exemple, par rapport à un salaire moyen, est-ce que c'est cher de s'alimenter à Kaboul?
Ça reste cher de s'alimenter. Le salaire moyen en Afghanistan est de $180-200. Donc c'est ce que touche un enseignant, c'est ce que touche un policier. Et il faut savoir que voilà, ces personnes-là ne vivent pas dans les mêmes conditions que les miennes, vivent dans des quartiers plus éloignés du centre, où le loyer va être de $100, $150, mais ce qui est énorme, pour un salaire moyen de $200. Donc la vie, elle est extrêmement chère. Elle est extrêmement difficile.
Il faut se nourrir ensuite. Qui va au marché?
Les hommes vont au marché.
Ce ne sont pas les femmes?
Non, ce ne sont pas les femmes, parce que l'Afghanistan reste un pays où les traditions sont très pesantes. Les femmes ne sortent pas beaucoup de la maison, donc elles sont souvent à la maison.
Donc même à Kaboul, au marché, ce sont des hommes?
Ce sont surtout des hommes qui
Le maître de maison qui rapporte pour la cuisinière, s'il y en a une, c'est ça?
Voilà, ce sont les hommes, et j'ai un ami, Nazir, qui est mon ancien fixeur, donc traducteur, qui est parti vivre aux États-Unis, qui s'est exilé et qui vivait avec sa mère et sa sœur qui travaille, donc c'est quand même une famille moderne. Et, Et je lui posais la question, puisque c'est lui qui faisait toujours les courses. Je lui demandais, mais comment vont faire ta mère et ta sœur? Et il me disait que ce serait le tchokidor. Le tchokidor, c'est le gardien, en fait, de l'immeuble ou de la maison.
Qui prendra la place, donc, du chef de famille.
Voilà, qui ira faire les courses.
Donc, toujours un homme au marché. C'est vrai que quand on vous entend raconter cette ville tellement difficile, Kaboul, Sonia Ghazali, on se dit, pour bon nombre d'Afghans, on se dit sauter par la fenêtre ou quoi d'autre, hein, comment sortir de cet enfer. Mais il y a aussi la possibilité, c'est de sauter sur un cheval.
'82, j'ai 82 ans, cela fait 60 ans que je monte à cheval. J'ai monté plus de 40 chevaux au cours de ma vie. Peu importe qu'il soit blanc, brun, noir, le cheval doit avant tout être courageux. Il peut être rapide, grand, petit, il doit avant tout avoir beaucoup de courage. Il faut très bien s'en occuper. Il faut leur donner beaucoup d'attention et les entraîner souvent. Il faut aussi faire attention à leur donner de la nourriture saine. Moi, je leur donne à manger des œufs et de l'orge. Quand je les entraîne, je les fais bien courir pour qu'ils aient bien soif. Et ensuite, je leur donne à boire. Cette partie est très importante pour l'entraînement. Je ne leur donne de l'eau qu'une fois par jour.
Que vient-on d'entendre, Sonia Ghazali?
Bien là, on vient d'entendre un palefrenier qui s'occupe donc de chevaux qui courent pour le bouskashi. Le bouskashi, c'est un jeu équestre qui... Si on traduit, c'est l'attrape-chèvre. Le principe, c'est d'attraper une carcasse de chèvre qui se trouve dans un cercle tracé à la chaux au sol. Et donc, on a des cavaliers, des chopendos, qui sont perchés sur leur monture et qui essaient justement d'attraper cette carcasse, de faire le tour en fait d'un immense terrain avant de la redéposer dans ce cercle.
On peut jouer au bouskashi à Kaboul même?
Oui, on joue au bouskashi partout en Afghanistan.
Enfin surtout, les hommes, hein, bien sûr.
Oui, les hommes, bien sûr. Toujours les hommes. Et on joue, oui, et surtout donc quand l'hiver commence, c'est vraiment... le jeu par excellence afghan, et un jeu d'ailleurs qu'on retrouve dans toute l'Asie centrale, puisqu'en Ouzbékistan aussi, on joue au bouskashi. C'est d'ailleurs un jeu assez, c'est iconique parce que Kessel, dans son livre Les Cavaliers, raconte l'histoire d'un chopendos, et donc on a tous cette image du bouskashi dans le nord de l'Afghanistan.
Est-ce qu'encore aujourd'hui à Kaboul, avec les difficultés de la vie quotidienne, les hommes sont soucieux de leur apparence physique, de leur corps?
Très très soucieux, les Afghans sont, moi je trouve les Afghans très charismatiques. Donc la tenue traditionnelle, c'est le chalwar kameez, qui est cet ensemble d'une longue tunique sur un pantalon large. Les jeunes fréquentent beaucoup les barbiers, il y a beaucoup de barbiers, donc ils travaillent beaucoup leur apparence avec cette barbe très très soignée, ces cheveux, voilà, ces cheveux aussi enduits de gel à la mode turque. Et puis le bodybuilding, oui, parce que la musculation...
C'est-à-dire qu'on va dans des salles de musculation?
Oui, il y a d'ailleurs un Mister Afghanistan, c'est le gagnant du concours de musculation, il y en a un par an, et on travaille beaucoup son corps. Les hommes travaillent énormément leurs muscles.
Et puis bien sûr, cette jeunesse dont vous parliez rêve de partir, de quitter Kaboul, plus largement l'Afghanistan d'ailleurs. C'est un rêve qui est souvent inaccessible, mais il reste la possibilité de rêver en écoutant du hip-hop, bien sûr.
Yeah, Daoud Savage. Yeah, Afghang. Afghang, 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 Afghang. Hey. Everywhere we do Atan. Hey. Everyone we meet Afghan. Hey. Every day listen to Rabab. Yeah. Any day we eat kebab. Yeah. Any day we eat kebab. Hey. Afghang, Afghang, Afghang. Hey. Afghang, 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 Afghang. Oh. Everywhere we do Atan. Yeah. Everyone we meet Afghan. Yeah. Every day listen to Rabab. Oh. Any day we eat kebab. Yeah. Any day we eat kebab. Yeah. Afghang, Afghang, Afghang. Kabul is my city. Oh. Dubai is very litty. Hey. Your sister's also pretty. Yo. Texting me so creepy. Yeah. Saying I'm cute Afghani. Hey. We cannot be texting. Hey. We cannot be dating. Hey. Afghan aunts keep hating. Yo. We don't smoke no cigarette. Oh. We don't smoke no weed. Hey. Let me give you some tea. Yeah. Time to fill my belly. Yeah. We
like tea with candy.
Hey.
Afghan's always ready.
Hey.
I cannot have side chicks.
Hey.
But I can have four wifey.
Afghang, 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 Afghang.
Hey.
Everywhere we do Atan.
Hey.
Everyone we meet Afghan.
Hey.
Every day listen to Rabab.
Yeah.
Any day we eat kebab.
Yeah.
Any day we eat kebab.
Hey.
Afghang, Afghang, Afghang.
Hey.
Afghang, 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 Afghang.
Alors ça, c'est du rap afghan, Sonia Ghazali.
Oui, c'est du rap afghan, c'est Gucci Gang, le nom de cet artiste qui est très jeune, il a une vingtaine d'années, et Daoud Savage. Et c'est un groupe d'amis afghans en fait qui m'a fait découvrir cette chanson. Ils rient aux éclats tous en regardant la vidéo sur YouTube de ce jeune artiste.
Parce qu'il n'est pas à Kaboul, hein, lui.
Non,
il a la chance d'être parti, il est à Dubaï.
Il est à Dubaï.
Et donc on le voit sur sa planche à roulettes dans le clip, sur une espèce de voie à grande vitesse à Dubaï, avec sa tenue afghane. Et c'est vrai que oui, il y a beaucoup d'humour aussi.
Il y a beaucoup d'humour et puis c'est de l'autodérision parce qu'on le voit avec un thermos se servant du thé, parce que les Afghans boivent du thé à longueur de journée. Et puis il dit... Voilà, on mange des kebabs tous les jours, parce qu'effectivement, ils mangent des kebabs tous les jours en Afghanistan. Il dit, on peut pas draguer de filles, mais on peut avoir quatre femmes. Et donc, voilà, ça parle de tous les... c'est de l'autodérision pour parler de choses qui dérangent, parce que cette jeunesse... elle a beaucoup de choses à porter sur ses épaules, en fait. Elle a beaucoup de choses. Elle aimerait se débarrasser de toutes ces traditions qui sont lourdes, qui pèsent.
Et qui font son identité. Donc, c'est une forme de piège. Et ils en sont conscients, non?
Et ils en sont conscients. Ils en sont conscients. C'est terrible de voir... ses amis, moi j'ai des amis donc qui ont la trentaine, qui sont mariés, ce sont des mariages arrangés, mais qui vont dans toutes ces soirées fréquentées notamment par des étrangers, qui ont des relations extra-conjugales, souvent avec des étrangères, dans lesquelles ils s'épanouissent parce qu'ils sont libres. Mais c'est terrible aussi parce qu'il y a ces femmes qui sont à la maison et qui, elles, n'ont pas cette liberté. Et voilà, donc c'est une vie... C'est une vie un peu de schizophrène, on en parle souvent, nous, là-bas, parce que on a des amis, on a accès à une partie de leur vie, on n'a pas accès à toute leur vie. On voit justement ce côté où ils sont libres avec nous, ils sont... ils sont comme nous, on a à peu près le même âge, ils ont pour certains fait des études à l'étranger, et ils aspirent à cette liberté.
Et de l'autre côté de la porte de leur habitation, c'est une autre identité, une autre vie, c'est ça ?
Exactement.
À laquelle vous n'avez pas forcément accès.
À laquelle moi je n'ai pas...
En tout cas pas via les hommes.
Non, pas via les hommes, pas via les hommes. Après on a des amis qui nous ouvrent la porte, mais cette vie schizophrénique, elle est présente. Elle est vraiment présente.
Sonia Ghazali, vous allez forcément quitter Kaboul, comme tous les correspondants. Qu'est-ce qui vous manquera de Kaboul ?
C'est difficile, en fait. Il y a j'ai une amie, Sandra Caligaro, qui est photographe et qui, ça fait 10 ans qu'elle travaille en Afghanistan. Elle n'y est plus basée de façon permanente, mais elle parlait d'un virus en fait qu'elle avait attrapé, et on entend souvent ça. Et c'est vrai qu'il y a un attachement à l'Afghanistan qui se crée, et c'est assez étrange parce que c'est une vie très particulière, qui est très pesante. On n'est pas libre. Moi, c'est vraiment la liberté qui me manque le plus, de pouvoir sortir sans voile, de pouvoir marcher des heures si j'en ai envie. Et en même temps, il y a un lien avec les amis, avec la population qui est peut-être due justement à cet aspect sécuritaire qui est pesant, qui fait qu'on a des relations un peu extraordinaires aussi avec les autres.
Plus romanesque finalement.
C'est très romanesque.
Ouais.
Oui, voilà.
Sonia Ghazali, merci à vous de nous avoir fait partager quelques tranches de vie dans Kaboul, la ville encerclée. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo qui a préparé l'émission, à la mise en onde Stephen Elsley. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions et tout spécifiquement aussi la série d'été toute cette semaine, de lundi à vendredi, sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, où nous retrouvez aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci Sonia Ghazali d'être passée par
le
studio. Demain, 7 milliards de voisins, suite de notre série d'été Vivre en ville.
demain vivre dans une ville où l'on s'arrange? C'est à vous de deviner. La première bonne réponse gagne un cadeau. Et vous nous écrivez bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou par mail à 7milliards@rfi.fr. À demain.